J'adore le portrait de Michel Lussault, le président du Conseil des programmes scolaires dans Libération de ce matin, mais pas tellement pour ce qu'il raconte de Michel Lussault, accessoirement invité de la matinale de France Inter aujourd'hui. Ce qui me plaît, c'est cette petite phrase. Ce géographe fait face au conservatisme furibard. Conservatisme furibard, dans ces deux mots, tout est dit comme si la réforme de l'école était par nature bonne parce qu'elle incarnait le changement contre des ânes retardataires qui voudraient passer leur vie à brouter le même pré. Ce discours, on le connaît, c'est très exactement celui qu'on nous a servi en 1995 au moment de la réforme de la SNCF. 10 ans plus tard, c'est celui qu'on nous a servi avec le référendum sur la Constitution européenne et enfin aujourd'hui avec la réforme de l'école. L'avenir du pays opposerait donc un bloc immobile, minéral, appelons-le pour faire simple, la France de la grotte Chauvet, et une autre France, moderne, sympa, prête à évoluer. Et toi, dis-moi, dans quelle France préfères-tu être? Celle des vieux cons réac ou dans celle des jeunes hipsters gentils, prêts à vivre avec leur temps? J'adore ce genre d'injonction, l'idée qu'il nous faudrait accepter une politique de changement qui change parce que le progrès progresse. Alors quitte à défendre la France des Mérovingiens contre celle de Star Trek, il n'est peut-être pas inutile de rappeler qu'une société moderne a peut-être besoin d'une école rétrograde qui apprend à penser aux enfants à la manière des humains. J'ai visité d'ailleurs de nombreuses universités dans le monde, Shanghai, Berkeley. À chaque fois, j'ai été surpris par la manière dont les peuples neufs adoraient les méthodes anciennes. Une manière de se rappeler qu'il faut toucher aux institutions existantes d'une main tremblante, comme le disait Montesquieu, et que le progrès n'est pas par nature un progrès.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Et puis l'on parle donc des festivals, car l'été c'est évidemment la saison des festivals avec des changements, des annulations et puis également des nouveautés. On en parle en compagnie de Claire Le Saunier. Bonjour, vous êtes co-directrice et fondatrice du festival Beauregard qui se tiendra du 2 au 5 juillet en Normandie.
Bonjour.
À côté de vous se trouve Bénédicte Dumège. Bonjour, vous êtes directrice de France Festival. Bénédicte, vous allez nous expliquer quel est le rôle des festivals, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces annulations dont on a entendu parler. Jean-Paul Roland, bonjour, vous êtes le directeur des Eurockéennes de Belfort qui auront lieu les 3 et 4 juillet prochains et co-président de Concert, une association de festivals dans le monde. Vincent Frérebeau, bonjour, vous êtes directeur fondateur artistique du label Tôt ou Tard, producteur de Zouave Spectacle. Vous occupez d'un certain nombre d'artistes, dont Chaka Ponk, Vianney ou Yael Naïm. Et puis enfin Didier Varro, bonjour Didier.
Bonjour Didier.
Vous êtes mon camarade, directeur de la musique à France Inter. La musique, c'est évidemment essentiel pour France Inter. Vous le prouvez une nouvelle fois avec une compile, l'Esprit France Inter, qui est sorti le 8 juin, des groupes qu'on retrouvera dans les festivals. Parlez-nous un peu de cette compile et de la politique que va suivre France Inter cet été pour nos festivals.
Alors, en ce qui concerne la compilation L'Esprit Inter qui est sortie lundi, on est d'ailleurs ravis parce qu'elle est dans le top 10 des classements, ce qui nous fait extrêmement plaisir. Eh bien, c'est le reflet du travail de la programmation musicale tout au long de l'année. Vous n'êtes pas sans savoir que les auditeurs et auditrices d'Inter ont manifesté un vrai plébiscite au moment de la grève qui nous a quand même causé beaucoup de difficultés. Et le seul motif de satisfaction, c'était cette playlist
qui a eu beaucoup de succès,
qui est devenue un peu mythologique. Donc nous avons travaillé à essayer de travailler ce volume 3, puisque c'est le troisième volume de la compile Esprit Inter, comme une playlist et non pas comme une association de titres que nous avions joués précédemment. Donc on mélange les titres francophones et les titres internationaux, ce qui est extrêmement compliqué de faire cohabiter Asaf Avidan avec Luce, par exemple, puisque la compilation commence comme ça, mais ça donne vraiment l'Esprit Inter, ce qui est l'ADN de France Inter. Et concernant les festivals, mon cher Guillaume, eh ben c'est le top départ là, d'une saison extrêmement chargée où France Inter va accompagner énormément de festivals. On commence ce dimanche à Fourvière avec la captation du concert de Yael Naïm, et puis ensuite nous partirons aux Eurockéennes, à Jazz à Vienne, Beauregard, Francofolie, Nyons, Jazz à Marciac, Route du Rock, pour terminer à Rock en Seine, plus de 40 concerts captés cet été, des heures de direct, ce qui veut dire que France Inter, effectivement, et les festivals sont deux mots qui vont bien ensemble.
Vincent Frerbeau, puisque vous vous occupez de Yael Naïm et qu'Inter va débuter l'été des festivals avec Yael Naïm, quel est le rôle des festivals dans la vie d'un artiste? On sait que l'économie du disque a été profondément bouleversée par le téléchargement et le piratage. Aujourd'hui, c'est essentiel de faire des concerts et de participer au festival pour un artiste.
Ah bah oui, d'autant que ces festivals sont, comme Didier vient de l'expliquer, bien relayés en médias. Donc c'est à la fois le moyen de rencontrer le public et un public qui vous connaît pas forcément parce qu'il vient au festival plus que pour tel ou tel artiste. D'une part, et d'autre part, c'est aussi le moyen d'exister médiatiquement pendant cette période estivale, puisque à chaque festival, c'est l'occasion de faire de la promotion, de faire des émissions, d'avoir des captations, d'être relayé sur les radios nationales, les médias nationaux, d'une façon générale.
On a entendu dire qu'aujourd'hui, les disques voient leur vente évidemment s'effondrer. Ça fait longtemps que c'est le cas. On a entendu dire également que les services de streaming rémunéraient très très peu les artistes. Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, un artiste, c'est quelqu'un qui gagne sa vie dans des concerts?
Oui, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que le service de streaming qui rémunère mal l'artiste, c'est à ce stade un peu...
Streaming, donc de diffusion sur Internet.
C'est un petit peu caricatural, c'est pas encore exactement le cas. C'est un marché qui est en train de se mettre en place, et les rémunérations viennent doucement, certes, mais elles sont proportionnelles entre les artistes et les producteurs, donc elles viennent doucement pour tout le monde, mais elles sont en train d'arriver, c'est en train de s'installer, et puis l'annonce d'Apple de lundi dernier...
qui va lancer donc son propre service de musique d'écoute en ligne.
Est un événement important évidemment pour la musique. Mais oui, les artistes effectivement trouvent une compensation de la baisse de leurs revenus qui est importante, puisque le marché de la musique a perdu 70% quasiment en quelques 10 ans. En effet, trouvent une compensation dans les revenus qu'ils tirent des spectacles.
Et c'est la raison pour laquelle, notamment, c'est aussi important de soutenir les festivals et de soutenir les artistes qui y participent. Bénédicte Dumège, on a également parlé, toujours dans l'actualité des festivals, de l'annulation de festivals avec une carte de France qui reprend les festivals qui n'auront pas lieu. Ces festivals, ce sont de petits, de gros festivals, c'était des festivals qui étaient aidés par les pouvoirs publics?
Oui, probablement que... Quasiment l'ensemble de ces festivals étaient soutenus par les pouvoirs publics. Après, il faut regarder avec attention cette carte. Finalement, en fait, la difficulté d'interprétation de cette carte, c'est qu'elle n'est pas associée de commentaires. Et ce qui fait que, finalement, on a une vision un peu imprécise avec cette carte sur la réalité. Alors, peut-être rappeler quand même quelques chiffres. Aujourd'hui, en France, on a recensé 1615 festivals de musiques actuelles. On sait qu'il y a des esthétiques musicales qui vont au-delà des musiques actuelles, bien entendu. Donc, on est à peu près à 2000 festivals de musique. Et finalement, ces 100 manifestations, ces 150 représentent un volume finalement qui n'est pas aussi important qu'il y paraît.
Alors, ça veut dire qu'il y a eu un emballement ?
C'est un... Peut-être, finalement. Et nous, pour avoir observé cette liste de festivals qui a été annulée, on s'aperçoit que les seules raisons du retrait en fait, des subventions publiques ne sont pas partout partagées pour ces disparitions. Donc on voit des équipes qui s'essoufflent, on voit des projets qui finalement ont peut-être conduit des projets un petit peu hasardeux et ont eu du mal en fait à reproduire une édition l'année suivante. Donc il faut prendre cette carte avec distance. Néanmoins, elle révèle une certaine fragilité des festivals. Ça, je crois que c'est un fait qu'il faut absolument partager.
Alors, puisque nous avons deux directeurs de festivals, on va parler juste après le disque de la manière dont ces festivals s'organisent aujourd'hui en termes de budget, en termes d'organisation pure. On va écouter un artiste que vous connaissez bien, Vincent Frerbeau, Vianney, qui va chanter pas là. Vianney, c'est un artiste que vous produisez. Il va se produire où cet été, Vianney? On va pouvoir l'entendre dans des festivals?
Oui, on va pouvoir l'entendre déjà au festival Solidez le 28 juillet, aussi au Francofolie de La Rochelle, le 13 juillet, je crois, et aux Escales de Arles, le 21 juillet. Je vous dis trois dates, je pense qu'il y en a d'autres que j'oublie là, mais c'est de mémoire.
Un mot à ajouter sur sa chanson, pas là?
Bah, c'est une chanson qui est sur toutes les lèvres et qui, que je trouve au cœur d'un album que je trouve personnellement magnifique.
Didier Varrot, vous vouliez rajouter un mot ?
Oui, enfin, on peut dire, hein, Vianney est en train de vivre un truc dingue. Je suis allé le voir au Trianon il y a une semaine et moi j'ai eu la sensation qu'il était en train de se passer une Vianney mania avec une salle absolument incroyable en transe qui connaît déjà les textes des chansons par cœur et un artiste qui se produit tout seul à la guitare pendant 1h20 et c'est absolument vertigineux. Voilà.
On l'écoute tout de suite.
Service public 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Je suis une cruche percée de plus. J'ai la peau craquelée depuis toi desséchée. Quand vient la lune et le vent frais, par habitude je te cherche sur le canapé. Dieu qu'elle est loin, la nuit de Liesse, où j'ai trouvé ta main, bien avant la tristesse. Tu me traquais, tu m'avais vu, tu m'as pris en collier. Et mon cou tu l'as tordu. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es où? Des nuits d'ivoire sur ça je t'en dois. Si les tiennes sont noires, non, je ne t'en veux pas. Si va la vie, enfin, surtout la tienne, je m'abrutis à jouer les fontaines. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Soyons la ruche, la ruche d'un futur en fait.
Service public sur France Inter consacré à l'été des festivals. Les festivals, on en parle en compagnie de mon camarade Didier Varrot, directeur de la musique à France Inter, de Vincent Frérebeau, qui est directeur fondateur artistique du label Tôt ou Tard et producteur de Zouaf Spectacle, qui notamment s'occupe de Chaka Ponk, de Yael Naïm et de Vianney qu'on vient d'entendre, Bénédicte Dumège, qui est directrice de France Festival, et deux directeurs de festival, Jean-Paul Roland, qui s'occupe des Eurocaines de Belfort, et Claire Le Saunier, qui est co-directrice et fondatrice du festival Beau Regard du 2 au 5 juillet en Normandie. Que va-t-on entendre au festival Beau Regard, Claire ?
Alors, on va entendre Sting, Florence and the Machine. On va entendre aussi des artistes comme Dominica, comme Benjamin Clementine, comme Étienne Dao, Lenny Kravitz. On a un débit fort aussi avec alors une programmation complètement différente avec Scorpion. Voilà, donc...
Est-ce que ça a été facile de monter ce festival en Normandie? Est-ce qu'aujourd'hui, les bonnes volontés qui décident de monter des festivals sont accompagnées par les pouvoirs publics? On a l'impression que c'est essentiel pour toutes les régions d'avoir leur festival. Est-ce le cas?
Alors, est-ce que c'était difficile? Oui, c'est toujours un pari, parce que un festival, ça vit sur 3 jours. Enfin, ça doit vivre toute l'année, alors qu'il n'y a que 3 jours de festival. Donc, on travaille au long cours et c'est des gros budgets qui peuvent basculer très vite. C'était une volonté, nous, du directeur programmateur du Big Bang Café à Hérouville, qui est une SMAC. Oui, une scène des musiques actuelles. Et moi, je faisais de la prod plutôt en zénith, etc.
Production. Je vais vous traduire. Ouais, finalement, vous allez voir.
Excusez-moi. La production plutôt en zénith. Et on avait tous les deux plus de 15 ans de métier. Et un festival, c'était un aboutissement pour nous. On connaissait assez bien les tourneurs, etc. Et on est tombé amoureux du site du festival, qui est le château de Beauregard, qui a un parc magnifique juste à côté du canal de Caen. Voilà, c'est à 5 minutes de Caen, 5 minutes de la mer. On a été soutenus... au début, on a un peu forcé la ville d'Hérouville. En fait, on leur a dit, on y va, vous nous prêtez le site. Et on a monté le festival, la première édition, en 6 mois, avec zéro subvention publique. Ça a été compliqué. Finalement, la ville a vu que ça marchait plutôt bien et nous a suivis. Après, on reste autofinancé à 95%, nous. On a 5% de subvention publique.
Jean-Paul Roland, vous, votre histoire, elle est un peu différente, puisque les Eurockéennes de Belfort est un festival aujourd'hui établi. Il aura lieu les 3 et 4 juillet. Que proposez-vous pour les Eurockéennes?
Alors, on propose de la musique, mais en fait, un festival, ça, je pense, ça propose surtout une expérience de vie. En fait, hein, c'est ça, je crois, surtout qui fait le succès actuel. On va dire pour les jeunes, ça peut être même des rites initiatiques, hein, ceux qui ont le droit d'y aller et ceux qui n'ont encore pas le droit d'y aller. Et puis, comme il y a un camping, donc ça veut dire un moment de vie, des rencontres faciles, tout ça. Et puis, bien entendu, il y a quand même la musique. Alors, la musique, il y a Sting, il y a Ben Harper, Chemical Brothers, enfin une 60aine d'artistes. Et puis, j'allais dire pour les Eurockéennes, c'est un peu la marque de fabrique, c'est d'avoir, on va dire, des têtes d'affiche, comme on dit, et puis aussi des découvertes.
Parce qu'avec les deux programmateurs, par exemple, cette année,
par exemple, je peux parler d'un artiste appelé King Aizoba, voilà, qui est un type qui fait une musique qui vient du Ghana et qui fait une musique avec une guitare 2 cordes, voilà, et ça, on peut les retrouver dans les musiques actuelles.
Didier, oui, une réaction sur ces découvertes et sur les deux festivals.
Alors,
on vient de parler.
Je dirais que France Inter s'inscrit dans une politique de partenariat à partir du moment où les festivals, effectivement, ne se contentent pas de mettre sur une affiche une somme de noms plus ou moins prestigieux. Ce qui est dit par Jean-Paul est extrêmement important. C'est un moment de vie qui doit être scellé pour la mémoire, hein, collective. Et je crois que le festival, c'est d'abord du lien social, un moment exceptionnel de vivre ensemble. C'est con à dire, mais dans un pays fracturé, où les gens se détestent, où les gens ne peuvent plus se blairer, le seul moment de grâce, c'est le moment où on voit ces foules de 70 000, 50 000, 30 000, peu importe, personnes qui sont ensemble et qui vibrent pour la même chose. Et la deuxième chose que je voudrais dire, des festivals qui sont dans une mission de découverte et de prescription, c'est absolument nécessaire parce que ici à Inter, nous faisons ce travail au long cours et on a besoin d'être porté aussi par la crédibilité des festivals pour ce travail de prescription.
Nous avons Charlène qui est au standard et qui nous appelle de l'Orne. Bonjour Charlène.
Bonjour.
Nous vous écoutons Charlène.
Alors moi je vous appelle en fait pour parler d'un éco-festival que nous on organise, donc qui n'est pas uniquement basé sur que de la musique. Donc c'est le deuxième qu'on organise cette année, donc qu'on a choisi pour thème le retour au sol, puisque c'est l'année européenne du sol. Et donc autour de ce sol, on a développé plusieurs thèmes, donc l'habitat, la biodiversité, l'économie, les échanges nord-sud, l'agriculture, l'énergie. Et donc tous ces thèmes sont développés tout au long du festival, donc par le biais de conférences ou la projection d'un film. Cette année, on a choisi En quête de sens. On a aussi tout un village associatif qui parle d'éco-construction, des associations locales, Il y a des démonstrations, il y a des spectacles pour enfants, la Fée des Gouttes de l'Or. Il y a aussi beaucoup de musique. Alors nous, on est
Quelle musique
festive. Donc l'année dernière, c'était beaucoup de fanfares. Puisque, alors l'année dernière, on avait aussi beaucoup développé sur la réflexion énergétique. Et donc le choix des fanfares, c'était pour ne pas avoir besoin de beaucoup de consommation électrique.
Ah bah oui, avec des instruments avant. Mais bon, d'un côté, il faut...
Du coup, ils ont fait la Java jusqu'à 7h du matin.
Et alors, donc, ça se trouve... Rappelez-nous où ça se trouve. Le retour au sol, c'est 12 les au 13 juin. Ouais. Je rappelle qu'il y a un petit jeu de mots. Heureux.
Oui. Tour pour les cohérences, le retour au sol. Voilà.
Le lieu juste, Charlène.
Oui.
Rappelez le lieu.
À Radon, donc c'est juste à côté d'Alençon, dans l'Orne, donc pas très loin de Caen où il y a Beauregard.
Merci beaucoup. La préoccupation écologique, elle est de plus en plus présente dans les festivals, Jean-Paul Rollin, pour les Eurockéennes.
Bah, particulièrement pour les Eurockéennes, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a... On a un site un peu particulier, hein, qui c'est le Malsaucis, c'est un isthme, une fausse presqu'île. Et bien entendu, c'est un endroit, j'allais dire, de protégé, de nidification d'oiseaux et tout ça. Donc le pari était relativement difficile. Il faut savoir aussi que l'écologie, dans l'histoire des Eurockéennes, qui devait se trouver au Ballon d'Alsace, donc une colline proche, avait déjà été sous la pression des écolos, avait déjà été repoussée, j'allais dire, vers d'autres. Donc effectivement, notre problème à nous, c'est d'arriver pour 3 jours. On occupe le terrain finalement en montage-démontage pendant 2 mois et on doit bien entendu laisser place nette puisque derrière, pendant l'été, il y a une saison estivale où on doit normalement pouvoir poser sa serviette tranquillement au bord de l'eau. Voilà.
Vincent Frerbeau, Didier Varro a rappelé l'importance de la Seine dans une France effectivement où les questions de coexistence ne sont pas évidentes. C'est aussi aujourd'hui devenu essentiel dans une carrière d'artiste. Il semble difficile d'imaginer aujourd'hui un artiste qui ne puisse pas se produire en scène. On le voit avec les festivals de l'été, on a véritablement des artistes qui vont aller d'un festival à l'autre, qui vont passer tout l'été en scène pratiquement.
Et d'ailleurs, cette coexistence, elle existe aussi dans les loges, parce que les artistes se retrouvent avec des styles très différents, des gens qui ne sont pas supposés s'apprécier et qui se retrouvent, qui se réunissent, et ça donne des réunions artistiques, des fois même sur scène, et qui sont très intéressantes. Après, il y a... chaque année, on a des exemples, moi j'en ai vécu quelques-uns, d'artistes qui explosent littéralement en festival. J'ai des souvenirs de, bah tiens, puisque Jean-Paul est là, de Jacques Apon qui fait son premier Eurockéennes de Belfort, rejoint par Bertrand Cantat. C'était une explosion vraiment du groupe devant une dizaine de milliers de personnes, je crois. Moi j'ai le souvenir lointain de la carrière, du début de carrière de Thomas Fersen au Francophonie de La Rochelle, où là encore l'artiste s'est révélé. Il y a toujours des enjeux importants lorsque un artiste joue dans des festivals, parce qu'il y a beaucoup de médias présents, il y a évidemment cette foule immense dans certains cas, donc il y a une pression particulière, et il y a, de cette pression particulière naît des fois de véritables événements artistiques, parce que le public exulte, et l'artiste aussi se retrouve en face de ce public et il exulte également.
Bénédicte Dumèche, vous qui êtes directrice de France Festival, vous acquiesciez au propos de Vincent Frerbeau.
Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, la forme festivalière, la place que tient le programmateur dans la confiance avec le public permet finalement d'établir des programmations qui, à la fois, vont proposer des artistes qui vont attirer des larges foules et à la fois prendre ce qu'on peut appeler des risques artistiques. Alors, je voulais un peu étendre aussi les champs esthétiques, puisqu'en fait, au sein de France Festival, nous avons aussi bien des grands festivals qui peuvent être tout à fait transdisciplinaires comme les Nuits de Fourvière ou Jazz in Marciac, mais également des festivals de musique classique, hein, dite savante, et qui, en effet, sont des lieux de présentation des artistes émergents, qui sont des lieux aussi où on a beaucoup, le recours à la commande auprès de compositeurs contemporains, où on crée, où on recrée, quand on est sur des œuvres du répertoire ancien, des nouvelles œuvres. Donc il est vrai que, aussi bien pour les musiques actuelles, mais pour les artistes qui viennent d'autres secteurs, que ce soit des musiques du monde ou des musiques savantes, il est vrai que le parcours par le festival est extrêmement important dans une carrière.
Nous avons Francine au standard. Bonjour Francine.
Bonjour.
Nous vous écoutons, Francine, nous écoutons.
Je voulais vous dire particulièrement que généralement dans les médias, dans les gros médias, ce sont les gros festivals qui sont toujours soutenus. Tous les ans, Télérama fait un petit article, enfin un gros article d'ailleurs sur les festivals en France. C'est toujours les Eurockéennes, c'est toujours Belfort, c'est toujours La Rochelle. Mais nous, les petits, on a quelquefois bien du mal à se tenir la tête hors de l'eau. Et nous avons un festival qui s'appelle Les Courants en Boise.
Côté de chez Laetitia Gaillet.
Qui a commencé il y a 14 ans par trois jours de musique. Et qui s'est étoffé au fil des années. Maintenant, ça commence par un festival de bande dessinée. Donc, ça dure 2 semaines au total. L'inauguration, c'est vendredi. Et aussi, cette année, le festival BD est axé sur les associations sociales et solidaires. Il y a un film sur les abeilles, la cité des abeilles. Et puis ensuite, une semaine après, il y a donc les 2, 3, 4 juillet le festival de musique avec bien sûr ce sont pas les plus grands noms, mais on a quand même des artistes qui sont connus. Par exemple, cette année on a Zebda, on a Opium du Peuple, Outrage, Les Yeux de la Tête, ce sont des groupes qui sont connus des jeunes, ce sont uniquement des musiques actuelles, mais en Indre-et-Loire, il y a un autre festival qui se passe aux mêmes dates et qui est soutenu par le journal local. Donc nous, on a une couverture qui est un petit peu réduite quelque peu.
D'accord, mais en tout cas, on vous a entendu pour ce festival qui a lieu donc à Amboise du 2 au 4 juillet. Merci Francine pour cette remarque. Didier Varro, une réaction.
Oui, cette auditrice a sûrement raison, mais alors la grande erreur serait d'essayer d'opposer les gros festivals aux petits festivals. Si on commence dans cette dialectique-là, on va dans le mur. C'est vrai qu'il y a des petits festivals qui sont moins relayés par les gros médias, mais il ne faut pas non plus caricaturer cette espèce de collusion entre les Eurockéennes, Télérama, France Inter par exemple, dans la mesure où ce que je disais aussi en préambule, et Jean-Paul pourra me rejoindre là-dessus, les Eurockéennes c'est certes des têtes d'affiche, mais c'est aussi tout un réseau d'artistes émergents en développement qui ont besoin vraiment de toucher cette réalité du grand public à l'intérieur de cette réalité-là.
Claire Le Saunier, la collusion entre le festival Beauregard et France Inter, le festival Beauregard qui se tient en Normandie.
Bah nous, on a eu du mal à voir France Inter. On a
donc la collusion a été difficile à obtenir.
Mais on y est parvenu. Après, je pense aussi que ça... Nous, on a un petit festival. Enfin, on n'a que 7 ans. Hein, c'est notre 7e édition.
Mais vous avez des gros noms
oui,
sur
mais,
votre affiche.
Mais après, nous, par exemple, en termes de communication, pour un peu appâter les médias et les qui s'interrogent, on a créé notre personnel, ce qui est John Beauregard, qui est... le porte-parole du festival. Alors longtemps, les médias ont cru qu'il existait. Bon, en fait, voilà.
Les médias sont naïfs.
C'est notre porte-parole. Et ça a permis de faire parler aussi. Je pense qu'on a. Je pense que les médias sont quand même très curieux et relaient beaucoup ce qui se passe au niveau culturel, quand même.
Pardon, je voulais juste dire, les Eurockéennes, avant d'être ce que sont les Eurockéennes aujourd'hui, c'était un petit festival au départ. C'est-à-dire qu'il faut accompagner aussi ces entreprises culturelles.
Et puis, évidemment, dans les petits festivals, il y a des groupes qui peuvent commencer à tourner. Vincent Frerbeau, ces festivals qui sont de taille plus modeste que les gros festivals comme les Eurockéennes de Belfort, quel rôle ont-ils aujourd'hui dans une carrière d'artiste ?
Bah là encore, un rôle de découverte, enfin de prescription, puisque le public, encore une fois, se rend des fois sur l'affiche d'un festival plus que sur un artiste en particulier. Et il découvre à ce moment-là des... Je sais que, puisqu'on parlait de Chaka Ponk tout à l'heure, Chaka Ponk, avant de passer aux Eurockéennes, à Beauregard et dans tous les gros festivals français, a écumé, j'ai envie de dire, les plus petits festivals et s'y est construit un public et une base de public très solide.
D'ailleurs, Caroline dit que Chaka Ponk a été découvert par Zone 51 à Célestat.
Ah bah vous voyez, ça confirme ce que je dis.
N'oubliez pas, nous dit-elle, les festivals qui prennent des risques pour les découvertes, Jean-Paul Roland.
Mais elle a raison.
Oui, je crois que sur cette histoire de taille de festival, on est toujours le petit de quelqu'un. Hein. Mmh. Quoi qu'il arrive, les Eurockéennes restent un petit festival au regard, par exemple, du Ziget en Hongrie qui fait 400 000 personnes ou Glastonbury, etc. Ce qu'il faut faut voir aussi maintenant, c'est qu'il y a de plus en plus de gros festivals qui ont aussi une version hivernale, beaucoup plus petite, beaucoup plus laboratoire. Par exemple, les Eurockéennes travaillent à un festival qui s'appelle Générique en hiver, pas très connu certes, mais qui a vu passer des Charlie Winston, qui a vu passer des Justice, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi, et dans ces gros festivals, un intérêt, voire même une passion certaine, vraiment pour la découverte. Et que ce soit le Paléo en Suisse ou les Vieilles Charrues, je veux dire, on se retrouve, notamment dans cette fédération de concerts, à ne parler que de groupes émergents. Voilà. Parce que finalement, on sait que c'est ça.
Et je pense qu'au niveau des prises de risques, de toute façon, qu'on soit un petit festival ou un gros festival, organiser un festival est toujours un risque. Et on a une part importante en tant que découvreur de talent, puisque tous les ans, il faut justement, nous, on sert à ça. On a les grosses têtes d'affiche qui appellent le public et on veut faire découvrir à ce public nos artistes coup de cœur.
Eh ben, en artiste coup de cœur et en découverte, Didier, on va entendre Robert Charlebois, Lindbergh. Parlez-nous de Lindbergh, de Robert Charlebois.
Petit clin d'œil, évidemment, à ce qui va se passer cet été. Nous serons sur la route des festivals, mais le grand feuilleton des radios publiques francophones, cet été, sera consacré à Robert Charlebois. Et ce sera une immersion dans 30 ans de chansons québécoises et 30 ans aussi de résistance francophone au grand géant anglo-saxon. C'est la radio canadienne qui a produit ce très bon feuilleton.
On l'écoute.
Whisper, jet clipper, jet turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Je sais plus où je suis rendu. J'ai été au sud du sud, au soleil, le blanc rouge, les palmiers et les cocotiers glacés dans les peaux aux esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées farcies. Et toujours la Sophie venait de partir, sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. Y avait même une compagnie qui engageait des pigeons qui volaient dans dedans et qui faisaient du ballon pour la tenir dans le vent. C'était absolument, absolument, absolument très salissant. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus, je sais plus, je sais plus. Sophie, à moi, a pris une compagnie qui volait sur des tapis de Turquie. C'est plus parti. Et moi, je suis rendu à dos du chameau. Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus, je ne sais plus où je suis, où je suis rendu. Puis j'ai fait
une chute, une crise de chute en parachute. Et j'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit avec mon meilleur ami et surtout mon pot de biscuit. Elle est là que j'avais ramassé sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan-American.
Service public sur France Inter, l'été des festivals, on en parle en compagnie du directeur de la musique de France Inter, Didier Varro, de deux directeurs de festival, Jean-Paul Roland pour les Eurockéennes de Belfort-Clair-Le-Saunier pour le festival Beau Regard de Normandie, Bénédicte Dumège qui est directrice de France Festival et enfin Vincent Frérebeau qui s'occupe de différents artistes tels que Chaka Ponk, Yaël Naïm et Vianney. Nous avons un auditeur au standard, nous avons Guillaume qui nous appelle de Picardie. Bonjour Guillaume.
Oui, bonjour Guillaume, je suis dans le Nord, je suis pas en Picardie, mais je suis originaire de la région d'Angers. Voilà, moi j'ai organisé un festival pendant... j'ai été membre d'une association qui organisait un festival de 2006 à 2010 à peu près. Et voilà, le sujet a été abordé un petit peu en début d'émission, mais on remarque aujourd'hui quand même que les petits festivals comme celui que j'organisais, une soirée sur 35 000 euros de budget... Didier Varro avait raison en disant il faut pas essayer de les opposer. Nous, le but n'était pas de devenir aggro. On était très bien, nous, avec nos 1000 entrées. Mais ce qu'on a vu, c'est au fil des années, les subventions publiques qui s'amenuisent. Et quand on est un petit festival où on peut pas se payer des grosses têtes d'affiches, évidemment, on peut pas se rattraper sur la billetterie. Puisqu'aujourd'hui, les gros festivals, évidemment, arrivent à s'autofinancer grâce à la billetterie. Nous, on pouvait pas, puisqu'on attirait 1000 personnes, qu'on attirait à 10, 11 euros pour une soirée.
On est monté
à 14 les dernières années, on nous a reproché que c'était trop cher.
Oui, donc c'était compliqué dans cette économie-là, avec des équations difficiles à tenir. Bénédicte Dumège, comment se financent les festivals, justement? Est-ce qu'il faut donc dépenser des centaines de milliers, voire des millions d'euros pour avoir des têtes d'affiches et du coup vendre des billets? Est-ce qu'on peut compter sur les subventions publiques? On a compris que c'était pas vraiment le moment.
Alors, le montage d'un festival est assez complexe finalement à opérer et surtout il dépend de l'esthétique que vous servez. Sur les musiques actuelles, c'est pas tout à fait le même montage financier. Finalement, on voit à Beau Regard, on a 95%, si j'ai bien compris, d'autofinancement, ce qui est absolument considérable, et 5% de subvention. Si on prend en fait des festivals qui sont plus dans des esthétiques de jazz ou de musique savante, les grands ratios, c'est à peu près 55% de subventions publiques, 36% de recettes propres, donc ça c'est la billetterie, donc on voit qu'on est dans un univers assez différent finalement, et 12% de mécénat. Il faut savoir qu'en fait les festivals sont plutôt des bons élèves côté du mécénat, ça fonctionne plutôt assez bien, parce qu'en fait évidemment le côté tribu, convivialité, on se retrouve à un moment donné tous ensemble pour partager un moment d'exception, un peu dans cette parenthèse enchantée qu'est le festival, finalement est un très très bon support pour le mécénat. Alors pour revenir sur le témoignage précédent, il est vrai que les petits festivals ont plus tendance à souffrir aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les gros ne souffrent pas, mais les gros festivals peuvent avoir des réductions de budget, hein, notamment de subventions publiques. On a fait des études, nous, auprès de nos membres, on s'aperçoit que quand même la tendance est légèrement à la baisse ou à la stabilité. Hein. Et parfois, un petit peu d'augmentation, ça arrive quand les projets sont en évolution, quand il y a des développements. Mais en gros, donc, c'est plutôt des budgets stable ou à la baisse.
Et puis des festivals, il y en a partout. Il y en a par exemple à Tournus, puisque Florence nous dit qu'on ne cite jamais les Franco-Gourmandes qui ont lieu les 12 et 13 juin à Tournus. Ben voilà, c'est pas vrai Florence. On vient d'en parler, il y a eu également
un festival soutenu par France Info, les Franco-Gourmandes. Donc Radio France est quand même partie prenante dans cette histoire, je le signale.
Et puis, il y a également des festivals de techno. C'est par exemple à ce festival que s'est rendu notre reporter Antoine Lee. Les fans de techno avaient rendez-vous le week-end dernier au Bois de Vincennes, près de Paris. C'est là, sur plusieurs milliers de kilomètres carrés, que s'est tenue la troisième édition du festival Weaver. Chaque année, le nombre de participants ne cesse de grandir. Cette année, 70 artistes ont joué devant près de 42 000 personnes. Aurélien Dubois et Brice Coudert sont les organisateurs de ce jeune festival. Antoine Ni y a promené son micro.
Comment ça se passe au Gary Gridness?
Ça se passe mal parce que le chauffeur a récupéré l'ordi, mais il habite à Sannois, c'est à 40 minutes d'ici, donc il va arriver en retard.
Quel est votre problème là, Brice?
Bah, c'est un artiste qui a tout simplement oublié son ordinateur chez lui et l'ordinateur qui lui permet de passer des boucles de musique. Peut-être qu'on va pas avoir le temps de le récupérer à temps.
Là, vous avez envoyé quelqu'un le récupérer là?
On a envoyé quelqu'un, ouais. C'est les aléas de ce métier-là, c'est ça, et je pense qu'on va en avoir d'autres.
Et comment ça peut voir là?
Bah, on va aller au pôle production, on va checker si on a des news sur la météo.
Oui, allô?
Oui, bonjour, monsieur Le Goff du Weather Paris Festival. Je vous fais un petit point, donc on était en alerte jusqu'à 21h, on commence à avoir des gouttes de pluie.
Non, mais on a levé la vigilance orange, hein.
Très bien,
et
très
donc,
bien.
On est en jaune maintenant pour l'Île-de-France.
Ok, parfait. Bah écoutez, on continue le suivi, on vous rappelle dans une heure.
D'accord.
Brice, vous nous présentez qui là?
Alors c'est Cédric qui travaille sur toute la production de l'event.
Et là, l'une de votre mission, c'est de savoir s'il va y avoir de l'orage, de la grêle.
Au moment où le département est en alerte orange, on est obligé d'avoir une vigilance, parce que c'est vrai qu'à des fois, ouvrir le festival pour une heure et elle se met dans des situations compliquées, tant de la part du public pour nos prestataires que pour nos artistes, parfois il vaut mieux prendre le temps de décaler l'heure d'ouverture. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, on a ouvert avec une heure de retard car on n'avait pas de garantie d'avoir une météo favorable, qu'on était en alerte. Et à 20h, on avait déjà des indices plutôt favorables. On a décidé de réouvrir les chapiteaux pour que les gens en profitent, parce qu'on savait que la probabilité était tombée genre à 99%, une chance qu'il fasse beau et qu'il n'y ait pas de pluie, quoi.
Là, il y a la scène été, en fait, qui est la première à ouvrir ce soir. C'est un collectif qui s'appelle La Mamise, des jeunes parisiens.
Quelles sont les difficultés principales pour monter un tel événement?
La première chose, c'est de convaincre le propriétaire du lieu. En l'occurrence, la mairie de Paris, la mairie du 12e.
Là, vous louez là, le terrain, là, ou pas?
Ouais, donc ça, c'est 8% du chiffre d'affaires réalisé.
Vous saurez ça, donc, à la fin du festival.
Ouais. Nous, aujourd'hui, on fait une opération culturelle, où si on arrive à breaker, à faire une opération nulle, on sera content.
Ça vous a coûté combien, là, déjà? Avec tout le matériel?
Disons, on peut pas vraiment parler de chiffres encore.
Si, vous savez combien ça vous a coûté quand même.
Bah, on n'a pas encore fini de payer. Donc,
vous savez combien vous devez payer?
On est sur une fourchette large entre 1,5 million et 3 millions voilà.
D'euros.
Voilà. Et si on n'était pas passionné et qu'on défendait pas pour nous quelque chose de très important au niveau culturel, on le ferait pas, quoi.
Le reportage d'Antoine Lee. On parle beaucoup de météo, un festival, par exemple, aux Eurocéennes de Belfort. Est-ce que ça fait partie des préoccupations?
Oui, ça fait même partie de l'histoire, hein, des Eurocéennes. Il y a eu bien entendu des éditions ensoleillées, beaucoup plus que pluvieuses, mais on a eu des épisodes dantesques, hein. On a eu des épisodes où il a plu au moment où on a ouvert les portes et ça s'est arrêté trois jours après. Mais cette histoire aussi d'avoir les pieds dans la boue, c'est réclamé par certains festivaliers. Voilà, pour dire, on veut vivre. Je vous parlais de risque initiatique tout à l'heure. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire le vivre fortement et entre braves.
On a eu des histoires communes, hein, notamment. Un orage dantesque alors que le concert de Lana Del Rey qui était extrêmement attendu, c'était la première prestation de Lana Del Rey en France aux Eurocéennes et tout d'un coup tout le site a les plombs ont sauté sur tout le site et notre captation qui devait se faire en direct n'a pas pu se faire, on a même perdu les données étaient corrompues dans le car régique France Inter, enfin ça a donné sur le moment beaucoup de panique mais après ça crée des liens avec les artistes et avec le festival.
Claire Le Saunier, vous n'avez pas ce genre de problème puisqu'en Normandie ne pleut pas.
Non. Alors nous, on a eu, en 6 éditions, on a eu un gros orage en 2012, dont on se souvient effectivement. Là, c'est du travail. Après, c'est une grande communion des équipes, du public, des artistes, et ça crée de la fraternité. Effectivement, c'est un rite initiatique par lequel il faut passer la pluie, l'orage.
Florence and the Machine, Ship to Wreck, Didier Varro.
Une artiste soutenue par la programmation musicale de France Inter.
Killer.
service public sur France Inter, l'été des festivals avec Jean-Michel qui se demande s'il n'y a pas justement trop de festivals. On ne pose pas la question de la concurrence, dit-il. Chaque ville veut ses festivités d'été. Il y a donc des choses qui se parasitent et se concurrencent. Bénédicte Dumège, qu'en pensez-vous, vous qui représentez ici France Festival ?
Il est vrai qu'il y a eu une expansion du nombre de festivals en France depuis les années de la décentralisation. Donc en fait, c'est vraiment des enfants de la décentralisation qui ont mobilisé finalement des fonds proposés par les collectivités publiques. Et on a vu en fait le nombre de festivals s'accroître jusque dans les années 2000-2010. Il est vrai qu'aujourd'hui, il semble qu'on ait atteint une certaine stabilité, mais on entend parler encore de festivals qui se créent. Moi, il n'y a pas quasiment une journée où j'entends pas en fait des manifestations qui se créent. Donc c'est l'élément qui me semble important, c'est que c'est un corps vivant finalement, cette sphère des festivals. Il y a des projets qui émergent, d'autres qui s'arrêtent, qui ne trouvent plus finalement les moyens de leur survie. Mais je pense que c'est important aussi que les choses vivent et bougent.
Un dernier auditeur, Jean-Michel, bonjour.
Oui, bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Nous vous écoutons, Jean-Michel.
Oui, moi je m'occupe de 4 festivals comme directeur artistique. Mmh. Le festival Jazz à Foura et le festival Jazz au Phare l'île de Ré. Ça c'est au mois d'août, donc ce sont 2 festivals qui s'adressent aux touristes, et puis 2 festivals d'hiver, ou en tout cas de saison, l'un à Clamart, Jazz à Clamart, mm-hmm. c'est en octobre, et Guitare au Beffroi à Montrouge, et ça c'est au mois de mars. Et j'ai travaillé pour le Conseil National du Tourisme sur un rapport sur jazz et tourisme, sur l'implication d'un festival sur l'hôtellerie, le transport, le commerce, l'artisanat, la restauration, et c'est assez intéressant parce que on n'a pas d'éléments très précis en indices qui nous permettent de vérifier l'implication d'un festival sur l'hôtellerie, le transport, le commerce, la restauration. Mais ce qui est important, c'est le gain en notoriété que gagne une ville. J'en veux pour preuve 2 exemples. Marcillac est une petite ville qui se trouve dans le sud-ouest, qui fait 1200 habitants et qui fait 12 000 personnes l'été. Et un jour, Winton Marsalis, qui est un petit peu le parrain de ce festival, a dit à Jean-Louis Guillaumont, le directeur du festival, « Now you are on the map ». Maintenant, vous êtes sur la carte, sur la carte du monde. Et un autre exemple, Jazz à Juan, dont j'étais le maître de cérémonie des années durant, et Jazz à Juan, tout le monde connaît The French Riviera dans le monde, l'office de tourisme vend sa destination dans le monde entier avec un orchestre de jazz.
Et qui, effectivement, a permis à ces villes de se faire connaître. Les Eurockéennes de Belfort ont permis de faire connaître quelle ville, Jean-Paul Roland ?
Belfort, hein. Personne ne savait où c'était. Personne ne savait où c'était, vraiment. On pensait qu'il fallait un passeport pour aller dans le territoire de Belfort. Mais c'était le but, hein. C'était le but, quand même, c'était de faire connaître cette région. Mais au-delà de...
C'est vrai, il y avait un but de, oui. Non pas d'aménagement du territoire, mais de notoriété.
Je dois vous l'avouer, le président du conseil général à l'époque était quand même plus fan de faire rayonner la ville, mm-hmm. plutôt que d'amener Lou Reed sur une scène. Ça, c'est avoué.
Par contre, peut-être parce qu'il préférait Morrison ou quelqu'un.
Non, il avait un calcul qui était de dire finalement, il vaut mieux faire un festival de musique parce que peut-être que les jeunes viendront retravailler dans la région. Si on fait un festival peut-être d'opéra ou d'autres, ce sera peut-être un peu plus difficile de faire revenir le personnage.
Un dernier mot très rapide.
Un mot très rapide dans le cadre de l'observatoire que nous conduisons sur les festivals. On a conduit des études sur les retombées économiques. Sur une trentaine de festivals, on a pu mettre en évidence qu'un euro de subvention développe 7 euros de retombées économiques sur le territoire.
12 aux Eurockéennes. Voilà.
Didier Varro, le mot de la fin sur l'été des festivals de France Inter.
Ouais, on va passer un très bel été tous ensemble. Non, je voulais juste dire, attention quand même, pas trop d'angélisme. La baisse des subventions, elle est réelle. Et les nouvelles orientations politiques lors des changements de majorité peuvent aussi influer sur la politique culturelle. Et ça, il faut quand même le rappeler.
Vincent Frerbeau, on retrouve Yaël Naïm, Vianney, Chaka Ponk dans les festivals de l'été. Ça commence avec Yaël Naïm à Lyon.
À Lyon, au Festival des Nuits de Fourvière, le dimanche 14. Et effectivement, ces 3 artistes sont les 3 qui tournent cette année chez Zouave et chez Tôt ou Tard. Et j'irai pour ma part dans plein de festivals, avec, en en citant un et pas le plus gros, les Escales d'Arles, parce que c'est un lieu absolument magique, le Théâtre Antique d'Arles, où j'irai voir Vianney.
Et Claire Le Saunier, si on veut aller en Normandie, à Beauregard par exemple, pour y entendre.
Bah, par exemple, Florence and the Machine qu'on vient d'écouter, Baxter Dury, Christine on the Queen, Algie, Sting.
Je voulais juste dire, Guillaume, demain, France Inter est à Belfort.
Donc ben c'est voilà, important, rendez-vous aussi. On écoute France Inter en direct de Belfort et Nagui en direct de la maison de la radio. Bonjour Nagui.
Oui, en direct de l'étage du dessus, en fait, c'est pas très compliqué en même temps. Mais
c'est bien aussi l'étage du dessus.
Allez voir les artistes en live, c'est que du bonheur, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et aujourd'hui, nous recevons Michel Larocque et Jacques-Antoine Grandjean de VentePrivée.com. Nous allons parler du fundraising pour récolter des fonds et fabriquer aussi des films et aider les artistes à avancer.
Eh ben, on vous écoute tout de suite après.
Et bise à Vincent Frérot, je vous en prie.